les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À propos de son ami le philosophe Bernard Grothuysen, Jean Paulhan écrivit « Je n'ai pas connu d'autre homme pour qui une idée, fût-elle évidemment fausse ou absurde, dès l'instant qu'un homme l'avait inventée, eût un tel prix. » Né en 1880 à Berlin, Bernard Grothuysen s'installa définitivement à Paris en 1932, fuyant une Allemagne dans laquelle le nazisme était aux portes du pouvoir. Fondateur en 1926 de la Bibliothèque des idées chez Gallimard, membre du comité de lecture de la maison et directeur avec Brice Parrain du département des littératures étrangères, il joua un rôle décisif dans l'introduction de la pensée allemande en France, traduisant lui-même ou faisant traduire des ouvrages de Goethe, Hölderlin, Musil, Kafka, Freud ou Marx. Bien que peu à peu tombé dans l'oubli après sa mort en 1946, Grout, comme le surnommaient ses amis, exerça également une grande influence sur nombre d'écrivains de son temps, en tout premier lieu les deux André, Gide et Malraux, dont il fut l'ami. En janvier 1984, Jean Montalbetti lui consacrait trois volets de l'émission « Les Inconnus de l'Histoire ». Dans le premier d'entre eux, on faisait la connaissance avec le personnage, grâce aux souvenirs de Dominique et Jean Toussaint de Santi, du philosophe Yvon Belaval, ou encore ceux de Francis Ponge.
Les Inconnus de l'Histoire enquêtent sur un maître à penser des années 30, Bernard Grothuysen par Jean Montalbetti, médiateur Jean Toussaint de Santi et Dominique de Santi, consultant Francis Ponge et Yvon Belaval, dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau. Dominique de Santi, nous allons évoquer la personnalité de Bernard Grothuysen. Bernard Grothuysen que, dans vos livres, chacun vous citez au passage. Je prends par exemple votre itinéraire intellectuel que vous avez retracé, Jean Toussaint de Santi, sous forme d'un pseudo-dialogue avec Maurice Clavel dans Un destin philosophique. Et vous citez Bernard Grothuysen que vous qualifiez d'homme socratique. Je lis ce passage, « Homme socratique, il lui arrivait souvent, au détour d'une conversation, de dévoiler un problème dans toute sa force et de laisser son interlocuteur en proie à la question posée. » Et vous, Dominique de Santi, vous qualifiez au passage Bernard Grothuysen de « père spirituel » dans oui. un passage des staliniens. On le voit aussi...
C'était pas mon père en stalinisme,
Non, c'est pas ce que je veux dire. Et on le voit aussi dans la période de 1940-1941, vous conduire avec Jean Toussaint de Santi vers le bureau de Jean Paulhan la NRF, donc aux éditions Gallimard.
C'est la première fois que nous pénétrions dans cette maison redoutable. Et alors, dans les trois escaliers, Grout, nous l'appelions toujours Grout, comme tout le monde, Grout marchait le premier, et j'étais juste derrière, et puis nous avons franchi un palier. Et sur ce palier, à la porte d'un bureau ouvert, se tenait debout un homme très grand dont même à contre-jour, je voyais le regard très bleu. Et Grout m'a soufflé, c'est Drieu-La Rochelle. Et là, j'ai tourné la tête horrifiée puisque Drieu-La Rochelle était celui qui dirigeait la Nouvelle Revue Française sous contrôle allemand. Alors que nous nous rendions dans le bureau juste au-dessus, chez Jean Paulhan, qui était l'ancien directeur de la Nouvelle Revue Française et qui n'avait pas voulu assumer cette direction sous contrôle allemand. Alors vous voyez, ça c'est un moment où Grout nous a montré, comme ça en 5 minutes, ce que nous avions à faire, en somme.
Alors ça se passait donc en 1940-1941. Vous évoquez aussi dans les staliniens la personnalité on ne peut pas oublier quand on parle de Bernard Grothuysen, c'est la personnalité de sa compagne pendant une quarantaine d'années, Alix.
Alors, Alix Guilin, alors là, peut-être dirais-je que c'est l'exemple, pas du tout les conseils d'Alix Guilin, elle n'aurait jamais fait ça, mais c'est l'exemple d'Alix Guilin qui m'a poussée vers l'engagement dans le Parti communiste, parce que si vous voulez, c'était le surmoi d'Alix Guilin, c'était sûrement Rosa Luxembourg. Mais d'un autre côté, c'était une femme d'une douceur extraordinaire. Elle avait un regard, elle aussi, d'un bleu vraiment ciel. Là, j'ai devant les yeux une photo d'Alix très jeune. Alors, elle a une longue chevelure blonde et bouclée sur les épaules. Et elle a un air absolument de jeune fille romantique. Elle était à demi britannique d'origine. Son père était français, sa mère britannique. Et elle avait une espèce d'intransigeance parfaitement douce. C'était un ange intransigeant. Mais Bernard Grothuysen n'a jamais été communiste. Et quand
c'est ça, à la différence de sa femme, qui était donc membre du Parti communiste, et qui a été journaliste à l'Humanité, où elle était éditorialiste de politique extérieure.
Avant Gabrielle Péri. Voilà, c'est elle qui assurait cette tâche-là. C'est elle aussi qui a assuré l'édition française des trois premiers tomes du Capital. Et c'est elle qui a publié les lettres de Rosa Luxembourg. Enfin, vous voyez, elle a donc activement milité par l'esprit. Mais Groth, pour moi, je crois qu'il était...
C'était un marxiste très ouvert. Et il pratiquait Marx à la façon dont il pratiquait les autres philosophes. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on lisait ce que Groth, ou qu'on entendait parler Groth d'un philosophe, on avait l'impression que ce philosophe était beaucoup plus proche, et beaucoup plus, peut-être, fondamentalement intelligent qu'on ne le pensait au premier regard, au premier abord. Donc, être marxiste pour lui, négativement, ça voulait dire au fond deux choses. Premièrement, il était athée. N'est-ce pas ? Absolument.
Et pourtant passionné par la religion,
oui,
sur laquelle il a beaucoup écrit.
La religion comme phénomène de culture,
ouais.
Comme mode d'apprentissage, comme mode d'apprentissage par l'homme de sa propre intériorité. Mais jamais il n'aurait expliqué le phénomène religieux par l'action d'un être transcendant, par un être transcendant de l'homme. Pour lui, l'homme était absolument et totalement terrestre. C'est un homme mortel qui naissait, qui mourait, terrestre.
Il a pourtant une très belle expression à propos de la religion, et il dit c'est la religion qui transporte l'homme au-delà de ses limites. Ça peut être une définition de la transcendance, ça, justement.
Oui, ça peut être une définition de la transcendance, à condition que l'on suppose qu'il y a un certain appel. C'est vrai. Qui vient d'au-delà du monde et qui porte l'homme au-delà de ses limites. C'est l'homme lui-même qui se porte au-delà de ses limites.
Oui, c'était exactement la position de Malraux, d'ailleurs.
Voilà.
La définition de la transcendance de Malraux, c'était ce qui en l'homme dépasse l'homme.
L'homme se dépasse.
Malraux a pris sa philosophie chez Groth, quand même.
En partie. C'est l'homme qui se déplace et qui va au-delà. Toujours au-delà. Bon, alors, donc on dira, si l'on veut... qu'il y a concordance entre certaines thèses de Marx et certaines, je ne dirais pas des thèses, parce qu'il n'en avait pas, mais certains des points de vue sur le monde de Grothuysen, en particulier celui-ci. Deuxième convergence, cette exigence que Groth posait toujours, de comprendre un phénomène de culture dans sa totalité. De laisser se développer pleinement le sens du phénomène de culture. Lorsqu'on le laisse se développer pleinement, alors on voit qu'un phénomène de culture ne peut pas se comprendre à son seul niveau, qu'on ne peut pas le comprendre sur un plan horizontal, mais qu'il faut, pour le comprendre, voir comment il est né, voir quelles sont alors les relations interhumaines de classe ou autres, historiquement constituées, qui lui permettent d'apparaître et de vivre. Donc, en cela, peut-être pourrait-on dire qu'il était marxiste. D'autre part, lorsqu'il parlait de Marx, il lui arrivait de parler de Marx, qu'il avait lu très bien. Il ne l'insistait pas tellement sur ce qui aujourd'hui passe pour l'essentiel, à savoir le caractère scientifique ou prétendu scientifique du marxisme. Pour lui, le marxisme, c'était une conception du monde. Une conception du monde débouchant, à ses yeux, sur une éthique et aussi sur des possibilités d'action propres à transformer le monde. En cela, il subissait sans doute de très près l'influence d'Alix, qui, elle, était communiste et qui pensait qu'il y avait un instrument propre à transformer le monde et que c'était le Parti communiste.
Alors, Jean Toussaint et Dominique de Santi, on vous voit donc pénétrer pour la première fois, semble-t-il, chez Gallimard, à la NRF, au début de la guerre, en 1940-1941. Mais dans quelles circonstances est-ce que vous avez connu Bernard Grotusen et à quelle époque?
Voilà, eh bien on l'a connu en 1940. De Santi avait un prof de philo qui n'était pas bachelard, un autre, Jean Val, qui était interdit d'enseignement parce que juif. Et alors, nous allions régulièrement le voir à son hôtel. Et de plus, tous les 8-10 jours, on avait rendez-vous dans un café en face des deux magots, parce que Jean Val trouvait que les deux magots étaient horriblement bruyants. Et il y avait un café qui s'appelait le Royal Saint-Germain, qui depuis est devenu le Publicis, alors beaucoup plus bruyant encore, mais qui était assez tranquille. Et on le rejoignait là. Et un soir, on arrive, et il y avait là un homme tout à fait étonnant. Alors, je l'ai vu entrer. Il portait un grand feutre, un feutre à large bord, ce qui ne se faisait plus que pour les photographes, les artistes Montmartrois et Gaston Bachelard. Et il avait un feutre à large bord, il avait une canne, il était habillé d'un par-dessus un petit peu n'importe comment, il avait un mégot collé à sa lèvre, la barbe était couleur de nicotine, puis il enleva son chapeau et on a vu un front immense, barré d'une mèche, et un œil étroit, bridé, clair, extraordinairement brillant, souriant, et la bouche aussi souriait. C'était comme une espèce d'illumination. Ce n'était pas un homme jeune, nous étions en 40, il était né le 10 janvier 1880 à Berlin, mais je ne me suis pas posé la question d'âge ou de génération. C'était un être venu d'un autre monde, pour ainsi dire. Alors il s'est assis, il a pris une de ces horribles cigarettes que nous fumions tous, qui étaient roulées à la main avec très peu de tabac et beaucoup d'herbes de chez le droguiste, et il l'a allumée, il fallait rallumer tout le temps. Et il s'est mis à nous poser des questions, qu'est-ce que nous faisions, qu'est-ce que nous lisions, qu'est-ce qui nous intéressait. Et il vous envoyait son intelligence. Et on se sentait à sa hauteur, soudain, parce que c'était Socrate, justement. Et je me suis aperçu aussi que cet homme pouvait parler de littérature russe, française, anglaise, allemande naturellement, mais aussi des littératures exotiques et des philosophies, bien sûr, mais moi, il me parlait plutôt littérature. C'était une fantastique fenêtre d'ouverture et je peux dire que ce soir-là, ça a été le coup de foudre de l'amitié. Enfin, vraiment, moi, j'avais trouvé mon père spirituel. J'étais complètement éblouie et il nous a immédiatement dit de venir dès le lendemain, rue Campagne Première, dans son atelier. Et nous y sommes allés. Alors, je ne sais pas comment De Santi a éprouvé cette première...
Alors, Jean-Toussaint De Santi, la même réaction.
Ah, oui,
aviez comme professeur de philosophie Jean Val, c'était... Un esprit tout à fait, prestigieux.
Tout à fait.
Et est-ce que Bernard Grothuysen était pour vous, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, un inconnu, ou est-ce qu'il avait déjà, comme ça, une sorte d'aura un peu de maître à penser ?
Non, pas du tout. Il n'était pas tout à fait inconnu, mais il n'avait, pour moi, enfin, pas d'aura de maître à penser, parce que, bon, j'avais vécu d'une façon un peu retirée, relativement au milieu de la NRF, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était là que Grothuysen menait son activité culturelle. Mais je connaissais quelque chose de Grothuysen parce que j'avais eu l'occasion de lire un livre court, mais tout à fait excellent, qu'il avait écrit sur la philosophie allemande. 150 pages. Je vois encore la couverture, ça avait dû être publié chez Rieder, c'était une couverture rouge, hein, 12, petit format. Et ce livre expliquait tout le développement de la philosophie allemande depuis la fin de l'hégélianisme jusqu'à la phénoménologie de Husserl, avec des chapitres vraiment qui scandaient cette histoire. Un chapitre sur Nietzsche qui était tout à fait intéressant, remarquable. Donc je connaissais le nom de Grothuysen, mais je ne mettais sous ce nom aucun visage. Or, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui est à la fois très lointain par la hauteur de sa pensée, mais très proche par sa capacité de dialogue, par la façon dont il sollicitait l'autre, sans en avoir l'air, en étant là, simplement en disant « Ah, n'est-ce pas, vous pensez cela ? Ah, oui. » Et puis alors, ça partait. Alors, on l'écoutait, on répondait, on réfléchissait un peu dans sa tête pour soi-même, et on finissait toujours par se dire « C'est curieux quand même, je suis beaucoup plus intelligent que je ne pensais. »
Et il donnait cette impression absolument à tout le monde.
Oui. On a l'impression, à lire les témoignages, que finalement, Grothuysen était probablement quelqu'un essentiellement de l'oralité, plus que quelqu'un de l'écriture. Car on n'a pas, quand on lit ses livres, le sentiment justement d'un esprit profondément brillant et original. Alors qu'il semble que tous les témoins, justement, ont éprouvé cela au contact de sa conversation.
Oui, c'était un homme de conversation, c'est sûr. Pourquoi était-il un homme de conversation et en quoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que pour lui, la pensée était une sorte de dialogue. La pensée consistait pour lui à solliciter la réponse de l'autre. Ça consistait à expliciter dans le discours, non pas dans un discours que l'on ferait comme cela, mais dans une opposition, n'est-ce pas, dans la façon socratique. Sauf que Socrate faisait semblant de ne pas savoir ce qu'il savait, alors qu'il savait très bien, tandis que Goethe se mettait en posture de chercher. Il cherchait avec, et il fallait qu'il y ait quelqu'un avec qui il puisse chercher, même si c'était lui qui menait le jeu.
D'un lecteur et d'un auteur inconnu. L'auteur. Discutons. Le lecteur. Mais je ne vous connais pas. Qu'avez-vous besoin de me connaître ? Ce que je dis suffit. Mais si ensuite vous reniez votre parole, je vous promets de ne pas le faire. Mais sait-on ce qu'on a dit ? J'avoue ne pas vous comprendre. Tenez, l'autre jour, j'ai rencontré un fou qui se croyait le Christ. Il m'a dit avoir fait le sermon sur la montagne. Et ne l'avez-vous jamais entendu faire un sermon ? Si, je l'ai vu prêcher. Et vous avez écouté ses paroles? Je pourrais vous les répéter. À quoi bon, la parole du fou me suffit. Mais il n'a pas parlé sur la montagne. Évidemment. Et il n'était pas le Christ. Comment dire le contraire? Mais ce qu'il a dit, il l'a dit. En quoi cela peut-il vous intéresser puisque tout ce qu'il a dit est faux? À vous de juger si ce que je dis est vrai ou faux. Mais écoutez-moi d'abord. Je le veux bien, mais vous me promettez de ne rien désavouer. C'est entendu.
Sa façon d'écrire est, je dirais, proche de la conversation. Sa façon d'écrire est simple. Il n'y a rien de codé dans l'écriture.
Pas de charabia philosophique.
Rien de codé.
Jamais.
Rien de codé, pas de code. C'est le langage de tout le monde. Et alors, si on le suit, on voit qu'en utilisant ce langage de tout le monde, en parlant ce langage de tout le monde, il arrive à dire des choses très profondes sur l'histoire, le temps, et à expliquer de la façon, et à faire comprendre de la façon la plus aiguë des pensées qui, maintenant, peuvent nous paraître étrangères, comme celle de Saint-Augustin ou celle de Plotin, dans l'anthropologie philosophique. Il avait une façon de se mettre à l'intérieur de l'autre.
Voilà.
Et de suivre le mouvement de sa pensée, de la devancer un peu. Il était toujours un peu en avance sur vous. Ben de même, lorsqu'il étudie Saint-Augustin, ou lorsqu'il étudie Montesquieu, ou lorsqu'il étudie Rousseau, il est toujours, dans sa lecture, un peu en avance sur le texte qu'il lit, mais il est à l'intérieur. Sa lecture était une recréation. Mais cette recréation, il l'exprimait de la façon la plus simple, comme s'il avait devant lui quelqu'un avec qui il parlait. Le jargon philosophique exerce toujours la fonction de scorie, d'une certaine manière, mais il donne l'impression qu'il y a quelque chose de sous, hein, d'une profondeur. Bien, Grote s'efforçait de faire en sorte que son lecteur pense qu'il n'y a rien de sous, sauf le fond, qui est explicite et qu'il montre.
Laval, quelles ont été les circonstances de votre première rencontre avec Bernard Grotwiesen? Aviez-vous entendu parler de lui avant de le rencontrer? Aviez-vous lu des textes de Grotwiesen?
Je connaissais Grotwiesen comme nom. J'avais très peu lu de lui. J'avais lu des choses de lui, par exemple, dans les Recherches philosophiques, une grande revue merveilleuse qui n'a pas continué de paraître. Notre rencontre a été pour le moins pittoresque. Je n'avais pas vécu à Paris. Je ne connaissais à peu près rien, et rien en particulier dans la maison Gallimard, où je publiais mon premier livre, par Jean Pollan et Jean Grenier. Et c'est donc Jean Pollan qui m'a dit « Venez chez Gallimard ». Et c'était le jour de réception, il y avait une douzaine, une quinzaine de personnes. Je ne connaissais au fond que Jean Pollan là-dedans. J'étais perdu, je faisais le cousin pauvre là-dedans, il me tardait de m'en aller, pour tout dire. Mais enfin, c'était un spectacle assez pittoresque. Et il y avait dans le public un monsieur à allure très Bachelard, il ressemblait à Bachelard, la grande barbe, sauf que Bachelard ne fumait pas, tandis que Grotwiesen sa cigarette perdait ses cendres constamment sur sa barbe. Ce monsieur s'approche de moi parce qu'il m'avait senti perdu. Et avec une gentillesse extraordinaire, il m'a parlé, m'a réconforté enfin, m'a parlé de philosophie, je ne sais plus sur quoi. Et quand je suis sorti, je me suis dit, mon Dieu, comme ces grands éditeurs parisiens sont gentils. Le grotesque, c'est que je l'avais pris pour Gaston Gallimard, que je n'avais jamais vu, et il n'avait rigoureusement rien de commun. Enfin, cela s'est réparé. Si bien que quand je suis revenu dans cette maison, pendant, ça devait être vers 46, j'ai dû 46, 47, après 48, je n'ai plus revu Grotuisen. Alors, il était toujours là, et je voyais comment il se comportait, je pressentais son caractère. C'était un homme qui se caractérisait par une générosité extraordinaire. Il s'intéressait réellement aux gens et non pas par mondanité extérieure. Il voulait savoir qui ils étaient et au fond, on peut dire qu'il les aimait d'une façon générale, quels que soient les gens, n'est-ce pas ? Et il voulait rendre service. Ça lui a joué un mauvais tour parce qu'on le sait, il a donné tout son temps aux autres et presque pas à lui, ce qui sans doute a contribué à ce qu'il n'écrive pas tout l'œuvre qu'il pouvait écrire.
Toussaint et Dominique de Santi, on trouve un portrait peut-être l'un des plus saisissants fait de Bernard Grotuisen dans le livre de Clara Malraux, Le bruit de nos pas, dans le quatrième volume qui s'appelle Voici que vient l'été.
Ah oui, c'est très bien.
Voilà comment elle décrit Bernard Grotuisen, et Bernard Grotuisen, pas dans n'importe quelle circonstance, en face d'André Malraux, deux personnalités plus côte à côte que vraiment en dialogue.
Bernard Grotuisen, à nos yeux, se caractérisait par le fait d'être le premier philosophe de nos amis qui s'intéressa à l'histoire. D'origine germanique, russe et hollandaise, un peu ventru, un peu barbu, le visage grâce à un front aux protubérances multiples socratiques. Son goût pour la maïeutique avait-il modelé ses traits ou ses traits avaient-ils commandé ses intérêts ? Il vivait pour les idées. Il les nourrissait, il les transmettait d'une voix un peu lente aux inflexions germaniques. Sa parole s'accompagnait de gestes bienveillants, rythmés par la nécessité de porter à sa bouche une cigarette complice. Il contredisait peu, recevait la pensée de son interlocuteur et la lui rendait enrichie. D'autres fois, il poursuivait son propre chemin, mais avec une si extrême courtoisie que son partenaire se croyait sur la même longueur d'onde que lui. Il avait tout lu. Il continuait de tout lire de la même façon qu'il écoutait, s'insérant dans la pensée d'un auteur, la revivant. Il ne se trompait pour ainsi dire jamais dans ses jugements. Kafka fut l'un des cadeaux qu'il nous fit. Auparavant, il lut Freud, dont il se gardait de parler avec l'ironique désinvolture d'usage dans son milieu. La sociologie, qui ne s'appelait pas encore la sociologie, était alors objet de mépris pour les gens de la NRF. Grâce à Grotuisen, elle apparut vers les années 30 comme une discipline insolite, mais digne de quelque intérêt. Grout et Alix venaient le mercredi dîner chez nous, devant une table de bridge qui permettait d'utiliser la pièce non meublée. Dès après le repas, les deux hommes circulant de biais dans la pièce monologuaient, cœur alterné, lyrique pour André, subtil pour Groot, s'infléchissant rarement l'un l'autre. Groot, à l'accoutumée si accueillant à la pensée d'autrui, semblait jouir de pouvoir enfin n'en tenir aucun compte, soit qu'il lui semblât se trouver devant un égal, soit qu'il pensât qu'il fallait laisser la pensée d'André s'épanouir selon elle-même. La conversation durait jusqu'au moment où Alix se levait. « Je vais faire la brute », disait-elle. Il était minuit, l'heure du dernier métro. Le jeu merveilleux cessait d'un coup. Nous nous sentions lésés comme si des acteurs se fussent arrêtés au milieu d'un spectacle.
C'est admirablement ça.
Tout à fait ça.
C'est admirablement ça. Alors, transportons la scène dans l'atelier de Groot. C'était rue Campagne Première, dans une maison qui existe encore, mais qui a été un tout petit peu rénovée en ce sens qu'on a mis l'eau courante dans tous les ateliers, et où ils occupaient un grand atelier, qui était le lieu où travaillait et dormait Groot, et un petit atelier où était le lieu où travaillait, dormait et cuisinait Alix. Cuisinait, beaucoup dire, ça se faisait sur un réchaud à alcool à deux trous. Bien. Et alors, on arrivait, les murs étaient complètement tapissés de livres, sauf quelques tableaux, dessins, mais rien d'autre. Et Groot était là. Alors, comme disait Groot, il ne faut pas être chosiste. Alors, il n'était pas chosiste. Il aimait les êtres et pas les choses. Mais il était si peu chosiste qu'il ne se rendait même pas compte de ce qui l'entourait. Et ainsi, un jour, c'est Alix qui me l'a raconté, elle l'a trouvé dans une parfaite inondation de l'atelier, les pieds dans l'eau, parce que le robinet restait grand ouvert. Elle lui a dit, mais Groot, pourquoi n'as-tu pas fermé le robinet? Et il a répondu, ah, je ne sais pas, n'est-ce pas, je pensais que ça devait être ainsi. Alors, voilà ce qu'il appelait ne pas être chosiste, c'est-à-dire que le monde extérieur, apparemment, ne jouait pour lui aucun rôle.
Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que l'homme? Telle est la question qui domine la pensée des siècles pendant lesquels se forme le nouveau monde de l'homme. L'homme cherche à se comprendre et se représente sous des formes différentes. Mais quelque variées qu'aient pu être les conceptions anthropologiques des temps passés, on peut cependant y discerner certains motifs fondamentaux qui, à travers leur transformation, garderont plus tard aussi toute leur importance dans l'image que l'homme se fera de lui-même.
J'ai là devant les yeux les photos de Groot, jeune homme. Quand il avait 20 ans, c'est-à-dire en 1900, il a été tenté par le dandysme. Et sur ces photos, effectivement, je vois un jeune homme extraordinairement semblable à l'homme de 60 ans que j'ai connu. Dans la structure du visage, il n'a pas encore de barbe, il a juste une petite moustache et il est dans un jardin avec des fleurs sous une tonnelle. Puis ce même jeune homme, il est très élégamment vêtu. Puis ce même jeune homme, encore plus élégamment vêtu, avec un haut de forme sur la tête et un parapluie entre les jambes, est photographié sur une terrasse et regarde au loin. Puis, ce même jeune homme, ça doit être un peu plus tard, toujours dans un jardin, est vêtu encore autrement, et là, on sent que trois poils de barbe commencent à orner son menton, ça doit être un peu plus tard. Donc, il y a eu une phase d'élégance vestimentaire, de soucis vestimentaires chez Grotuisen, dont il subsistait des traces bizarres. Parce que, par exemple, il portait de ravissants gilets romantiques à fleurettes. Mais comme il fumait ces ignobles cigarettes qui tout le temps s'éteignaient en lâchant des étincelles et des escarbilles, ce gilet était parsemé de petits trous. Et négligemment, il faisait partir la cendre de ses revers. Pas totalement, d'ailleurs, oui, comme ça d'une pichenette.
C'est aussi comme ça que le décrit Maria van Rysselberghe dans les cahiers de la petite dame.
En cherchant ce qu'il va proposer, Grotuisen, la cigarette aux lèvres, frotte l'index de sa main gauche avec sa main droite en un geste machinal et balancé. La tête rejetée en arrière, les yeux tout plissés comme s'il voyait les mots loin, loin, avec toute leur perspective historique. Il fume sans arrêter, inondant sa personne de cendre. Il ne touche délicatement le cendrier avec sa cigarette que quand elle n'a plus de cendre du tout. Ce geste a la politesse d'un petit remords.
C'est tout à fait ça.
Francis Ponge, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez connu Bernard Grotuisen et est-ce qu'il s'agit d'une première rencontre à proximité de la guerre dans les années 30 ou au contraire une rencontre beaucoup plus tôt à Paris?
C'était beaucoup plus tôt, oui. J'ai dû rencontrer Goethe, sinon en 1923, du moins certainement en 1924, et peut-être déjà en 1923, à l'époque où j'étais grand ami de Jean Pouillant, n'est-ce pas, et de Jacques Rivière, enfin des gens de chez Gallimard. Et Gauthuizen était à ce moment-là habité au 9 rue Campagne Première, dans une grande maison où il n'y avait, pour ainsi dire, que des ateliers, n'est-ce pas, sur de nombreux étages, beaucoup d'ateliers, de peintres, d'écrivains, enfin d'un tas de gens. Et aussi Paulhan avait lui-même un atelier là. Et nous descendions très souvent de l'atelier de Paulhan à celui de Gauthuizen. Gauthuizen avait deux ateliers, dont un plus petit et puis un fort grand, et qui était un lieu où on pouvait se rencontrer à plusieurs. Et dans cet atelier, qui était une espèce de capharnaüm, hein, c'était quelque chose, j'ai écrit un texte où j'ai dit que l'atelier de Groot ressemblait à celui de Picasso. C'est vrai, parce que c'était une espèce de capharnaüm où il y avait un peu de tout, des choses épinglées au mur, des tableaux, des manuscrits, parce que le 9 rue Campagne avait été habité par beaucoup de peintres, notamment par des gens comme Quirico, des gens comme Apollinaire avaient habité là aussi. Enfin, c'était un atelier et ils avaient laissé des tableaux. Mais alors, on descendait là en général pour que Pouillant en particulier nous lisait ce qu'il était en train d'écrire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, mettez, si vous voulez, à l'épreuve de l'audition par des amis, mais des amis qui pouvaient être critiques, de ce qu'il était en train d'écrire, de préparer, qui était déjà, naturellement, les fleurs de l'arbre. Et je me souviens en particulier de la présence souvent là de Pierre-Jean Jouve, n'est-ce pas ? Je me souviens en particulier de lui. Il y a pu y avoir d'autres personnages.
Ungaretti ?
Ungaretti, parfois. Mais moi-même, je n'ai connu Ungaretti physiquement qu'à la fin de la Seconde Guerre, n'est-ce pas ?
Francis Ponge, vous qui êtes un artisan du verbe, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'était le verbe de Gauthuizen, la parole, le discours de Gauthuizen ?
C'était quelqu'un qui était, comment dirais-je, à peine était-on en sa présence, c'est-à-dire arrivait-on, si vous voulez, dans un atelier, qu'on était immédiatement jeté dans le monde des idées, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il vivait dans le monde des idées, et il était très disert, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il parlait très facilement et beaucoup. N'est-ce pas ? Il était, je ne peux pas dire bavard, le mot serait absurde, mais il était très disert. On n'était pas du tout gêné par le moindre accent de sa part. Et il était très, très, très agréable à écouter parce qu'il parlait très bien. Et surtout aussi parce qu'il parlait de ce qui vous intéressait vous-même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il avait le génie comme Socrate, quelqu'un qui vous faisait parler, qui vous mettait, si vous voulez, en état de vous connaître vous-même. J'ai depuis, n'est-ce pas, connu bien d'autres philosophes, naturellement. Eh bien, c'était pour moi des caricatures comparées à Gauthuizen, enfin, aucun rapport. C'était des gens qui jouaient le philosophe, enfin, à leur façon de s'habiller, leur façon de parler, mais etc. Mais enfin, qui n'avaient absolument rien du génie de Groot, enfin, sans aucun doute.
Quelles sont les origines sociales et familiales de Gauthuizen ?
Alors, il est.
Elles sont mystérieuses, elles étaient mystérieuses à l'époque.
Pour nous, tout à fait, parce qu'on n'avait pas l'idée de lui demander. Il nous aurait sûrement répondu, mais on n'a jamais eu l'idée de lui demander. Et maintenant, c'est tout à fait embarrassant. J'ai son acte de naissance, qui est donc du 10 janvier 1880. Sa mère était russe. Son père, Grotuizen, était germano-hollandais. Enfin, c'était, il avait à la fois des ancêtres néerlandais et des ancêtres allemands. Groot a été élevé en Allemagne. Et il a suivi les cours de Simmel, mais il a été très influencé surtout par un autre Allemand, Diltay, qui, parmi les premiers, s'est occupé des sciences de l'homme, de ce qui touche l'homme. Et de cela, Grotuizen a été profondément marqué.
Et donc sa langue de culture,
était l'allemand, seulement il s'exprimait en français à part quelques intonations que Clara Malraux marque d'autant mieux qu'elle est elle-même d'origine allemande et qu'elle y est probablement plus sensible. Moi, je trouvais plutôt qu'il avait un ton de voix particulier, je ne décelais pas d'accent.
C'était un accent, une voix un peu chantante, n'est-ce pas, et qui baissait le ton dans les fins de phrases.
Ah oui, elle se perdait les fins de phrases.
Elle se perdait, mais oui. ça n'était pas un accent. Enfin,
alors, de culture allemande et de langue allemande comme langue première,
oui.
Il a écrit ses premiers textes en allemand, mais ça n'a pas été le cas de tous ses livres.
La plupart ont été écrits directement en français. En français, car dès 1904, il a rencontré Alix Guillain à Paris. Elle l'avait consulté à propos d'une traduction. Et elle lui avait déposé un mot, il lui avait écrit, il n'avait même pas compris qui ça pouvait être, puisqu'il met « Monsieur Alix Guillain ». Et ils se sont rencontrés, et je crois aussitôt aimés, aussitôt unis. Et naturellement, Alix était contre le mariage, cette institution bourgeoise, ce qui fait que de 1904 à la mort de Groot en 1946, elle est restée sa compagne, alors non seulement d'une fidélité, mais d'une présence rare, parce qu'elle ne s'éloignait jamais plus de quelques heures. Et celui qui partait de temps en temps pour aller soit dans le Midi à Cabris, soit chez Madame Mérich à Luxembourg, c'était plutôt lui. Et elle, occupée de divers travaux, venait ensuite le rejoindre. Mais elle ne s'éloignait jamais. Mais le mariage, quelle horreur! Jamais elle n'aurait admis une institution si bourgeoise qui aliénait la femme. Elle était alors la plus exactement aliénée des femmes, parce que pour Groot, il fallait faire tout, y compris lui rouler ses cigarettes en faux tabac, parce qu'il était bien incapable de se les rouler lui-même, malgré les petites machines que nous avions tous. Alors, c'était très curieux. Donc, on était chez eux et la conversation se poursuivait. Était rompue par le couvre-feu à ce moment-là, et reprenait le lendemain d'une manière absolument merveilleuse. Et à ce moment-là, je pense que pour Groot, le pays central était la France. C'est l'impression que j'avais. C'est à partir de la France et de la langue française qu'il considérait les autres cultures qu'il connaissait admirablement. Les choses qu'il m'a dites sur Dostoïevski, par exemple, personne ne me les avait dites avant. Et sur Hamlet, sur Shakespeare,
alors
il
justement,
était extraordinaire. Homme
de culture allemande, de langue allemande au départ, quelle était sa culture? Il n'était pas seulement un homme de culture allemande, et en tout cas pas seulement de culture philosophique, aussi
non,
de
non,
culture
non,
littéraire.
Non, pas du tout. C'était un homme de culture vraiment humaniste. Et quasiment universel en ce qui concernait les activités humaine, sauf les sciences exactes, bon, pour lesquelles il n'avait pas de formation du tout. Mais pour tout ce qui concernait la société humaine, pour tout ce qui concernait les arts, pour tout ce qui concernait ce que nous nommons la culture, ben je crois qu'il avait un savoir, mon Dieu, à peu près universel. Enfin, il pouvait parler de n'importe quoi, aussi bien de Shakespeare que de Cervantes, n'est-ce pas ? Et de Cervantes que de Dante, et de Dostoïevski que de Goethe, et sans parler des contemporains. C'était un homme qui était intérieur aux cultures. Je ne vous dirais pas qu'il était cosmopolite, ce serait mal dire, n'est-ce pas ? Il connaissait de l'intérieur des cultures tout à fait différenciées. Et il était apte à construire des connexions, à montrer des rapports. C'était un Européen.
L'auteur dit des horreurs, mais ce n'est qu'un rêve. Le lecteur. L'autre nuit, je vous ai vu en rêve. Vous veniez à ma rencontre exactement comme aujourd'hui et vous m'avez parlé. L'auteur. Que vous ai-je dit ? Des horreurs. Des horreurs ? Des horreurs. Et que s'est-il passé ensuite ? Je me suis réveillé, j'ai appelé Eulalie qui dort dans la pièce à côté. Et que vous a-t-elle dit ? De me rendormir. C'est ce que vous avez fait. Non, j'ai commencé à lire un roman, vous le connaissez peut-être. Quel en est le titre ? Théodore et Sophie. Et qu'avez-vous fait ensuite ? C'est tout ? Mais ne pouvez-vous pas me répéter les horreurs que je vous ai dites ? Vous rougiriez. Pourquoi aurais-je honte puisque je n'ai jamais rien dit de tel ? Je veux bien vous croire. Mais parlons d'autre chose, du roman que vous avez commencé l'autre nuit, par exemple. Le lecteur, je n'en ai lu que quelques pages. Et que dit Théodore ? Des bêtises. Et vous lui en voulez ? Comment lui en voudrais-je, puisqu'il n'existe pas ? Mais qui donc a dit ces bêtises ? L'auteur, évidemment. Heureusement que vous n'êtes pas auteur. Pourquoi ? Je vous aurais soupçonné d'avoir dit les horreurs que vous m'attribuez. Et comme lecteur, vous n'êtes pas responsable. Tout dépendrait donc de savoir si l'on est auteur ou si l'on est lecteur. Peut-être. Il est tard et j'ai hâte de continuer mon roman.
C'est tout à fait, je dirais, fondamental pour la philosophie de Groot, ce texte. Parce que c'était un lecteur. C'était un lecteur. Bon, il a lu Hegel, Saint-Augustin, Shakespeare, etc. Mais qu'est-ce que cela voulait dire que lire ? Lire, pour lui, c'était s'installer dans un texte en y projetant les exigences de sa propre pensée et en recréant le texte à partir de ses exigences. On pourrait dire qu'au fond, pour lui, vu de l'extérieur, un texte, ça n'est pas. Un texte, ça n'est que pour le lecteur. Un texte, ça n'est que pour qui va s'installer en lui, que pour qui va le démonter, le refaire en le défaisant. Et le véritable auteur, alors on arrive à cette relation de réciprocité, n'est-ce pas ? C'est que l'auteur qui crée un texte est créateur dans la mesure où il peut susciter et jusqu'à un certain point maîtriser cette activité de recréation de son lecteur potentiel. On dit un texte me touche, mais c'est ça, le texte touche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux, comme on dit, entrer dedans. Il y a des textes dans lesquels on peut entrer, dans lesquels on ne peut pas entrer. Mais cette relation du lecteur à l'auteur, c'est la relation constitutive du sens de toute culture. Et cela, Groot, dans ce texte si simple, limpide, dans lequel on dit, mais tout ça n'est pas profond. Mais c'est ça qui est dedans. C'est une théorie très profonde du sens d'un monde de culture, qui est toujours un monde d'échange. De dialogue, si l'on veut, mais d'échange, dans le fond, d'échange, de partage. On partage le sens.
Dominique de Santi disait qu'à un certain moment, il avait quand même basculé vers, vers la culture, la langue, la société française. Donc il y avait eu tout de même un choix qui s'était fait, un abandon de la société allemande et la culture allemande.
Un peu aussi.
Mais tout de même, il y a eu un choix qui s'est produit à un certain moment. Qu'est-ce qui a pu motiver ce choix et est-ce qu'il n'a pas été beaucoup plus radical à partir de 1933?
Je pense que...
Écoute, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que depuis 1906, il faisait un cours de philosophie à l'université de Berlin et qu'en 1932, il en a démissionné. Alors ça, c'est un fait biographique important et qui prouve un choix. Il a choisi contre une Allemagne où la montée de l'hitlérisme était évidente. Et si beaucoup d'émigrés allemands passaient chez Gide, comme les cahiers de la petite dame en font foi, c'est presque toujours envoyé par Groot, parce qu'ils aboutissaient d'abord à l'atelier de la rue Campagne Première, et Groot tentait de les orienter vers ceux qui pouvaient les aider. Et je crois que ça a été une de ses tâches dans l'entre-deux-guerres, après la prise de pouvoir par Hitler, et pendant l'occupation, le nombre de gens qu'il a aidés. Mais chez Gallimard, d'abord, il choisissait les livres étrangers à traduire dans le domaine des idées, mais ensuite, il aidait les traducteurs, ça j'en sais quelque chose, mais même les auteurs des livres français à les parfaire et à aller jusqu'au bout de leur pensée, toujours par cette méthode socratique, ne pensez-vous pas, n'est-ce pas, et puis l'autre se sentait subitement venir des idées. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Et par exemple, quand il parlait avec Paulhan, on avait l'impression que Paulhan allait à la pointe de lui-même et que Groot l'y poussait et y allait également. Et de même, une fois, je l'ai entendu parler de la mort avec Malraux. Alors, Malraux, vous savez que c'était un obsédé de la mort. Et Malraux se lançait dans de grands monologues lyriques sur la mort, la beauté, la nécessité, l'horreur de la mort. Et Groot apportait tout d'un coup la note de l'extrême-orient, la note de la métempsychose, la note de l'athéisme. On avait l'impression qu'il jouait avec la mort, lui qui ne croyait en aucune survie. Et on avait l'impression aussi, et ça Malraux m'a dit qu'il le ressentait, que Malraux s'apaisait dans ce dialogue, que son angoisse de la mort le quittait pour un moment. Et c'est pourquoi il revenait toujours à Groot. Vous savez que dans la condition humaine, il y a un philosophe, un personnage, le père de Kyo, le révolutionnaire, le père européen, la mère étant japonaise, et ce philosophe, Gisor, on m'avait dit que c'était Grotuisen. Alors, dans le dernier entretien que nous avons eu avec Malraux, c'est-à-dire 3 semaines avant sa mort, je lui ai dit, mais finalement, est-ce que c'était ou est-ce que ce n'était pas Groot? Et il m'a dit, c'est pas à vous que j'apprendrai qu'un personnage de roman est toujours fait de choses multiples déposées dans l'auteur et qui se mêlent d'une manière que l'auteur n'avait probablement pas prévue. Mais il est certain que si j'ai osé faire un personnage comme ça, un personnage de parfaite sérénité, c'est parce que j'avais rencontré Grotuisen, car dans nos civilisations, un personnage pareil n'est absolument pas croyable. Et je le sentais si peu crédible que je lui ai attribué l'habitude de fumer de l'opium alors que jamais Groot n'a dépassé le tabac, parce que je voulais... c'était une concession, disait Malraux, c'était une concession à l'idée qu'avaient les gens de la sérénité. Je voulais lui donner une voie de sérénité admise, une voie extrême orientale dont Grotuisen n'avait aucun besoin.
Lecteur, bien des personnages ont passé dans mon rêve. L'auteur,
moi, entre autres. Et d'autres encore dont je ne vous ai pas parlé. Tout ce qui concerne ces personnages, je l'ai inventé. Autrement, vous n'auriez pas rêvé. Mais qu'en est-il de leurs paroles? Ils ne les ont pas prononcées. Mais ce qu'ils ont dit, quelqu'un l'a dit. Et ce quelqu'un, c'est vous. C'est moi. Vous ne vous êtes donc pas inventé. Du moins pour autant que je parle, car je me suis imaginé faire bien des choses que je n'ai pas faites. On parle donc en rêve, mais on ne rêve pas de parler. Oui, on ne rêve pas ces paroles ni celles des autres qu'on entend parler. On les dit. Ainsi, toute parole est vôtre. Tout ce qui s'est dit, c'est moi qui l'ai dit. Même les horreurs que vous me prêtez. Ne m'interrompez pas. Dans nos rêves, nous monologuons par personnes interposées. Sommes-nous d'accord? Mais comment appliquerez-vous cela à mon roman? Rien de plus facile. Vous n'avez rien fait de ce que Théodore est censé avoir fait. Ce n'est pas vous qui avez poursuivi Sophie de vos assiduités. Mais ce que Théodore est censé dire, c'est vous qui le dites. Et aussi tout ce que Sophie répond à Théodore? Évidemment. Écrire un roman, c'est donc parler tout seul? Tout roman est un dialogue intérieur.
Oui, je ne crois pas qu'il ait été si serein au fond de lui. Mais disons qu'il avait une pensée qu'il essayait de maîtriser le plus possible, si bien que le fond d'angoisse qu'il devait avoir, comme tout le monde, était, je ne dirais pas refoulé, mais apaisé. Il apaisait. Et le fait qu'il apaisait sa propre angoisse par l'exercice de la pensée et par l'intériorisation dans la culture, de même, il l'apaisait chez les autres par le dialogue. Je suppose que c'est ce qui a dû se produire avec Malraux à propos de leur discussion au moment de leur discussion sur la mort. Fait de parler, le fait de suivre une pensée, le fait d'essayer de rendre clair, d'expliciter, ben tout cela éloigne l'angoisse. C'est ce que devait sans doute éprouver Malraux.
Alors cet art du dialogue chez Grotuisen, est-ce que ce n'est pas aussi pas simplement la démarche du philosophe, mais aussi presque une démarche pédagogique? Il a été un enseignant, un professeur.
Oui, il a été un enseignant et finalement il l'est resté.
Il était profondément pédagogique à l'égard de lui-même.
Oui,
c'est ça, à l'égard de lui-même.
Oui, mais alors là, je viens de regarder trois lignes de biographie de Groot et je vois qu'il démissionne en 1932 pour protester contre les persécutions dont sont victimes ses collègues juifs. Il a fait ce que Heidegger n'a certes pas fait, puisqu'il a pris la chair de son maître Husserl.
Oui, non, mais ça c'était prévu, mais il l'a prise de toute façon. Non, mais c'est moi, Heidegger était tellement opposé à l'école de Francfort. C'était un paysan, Heidegger.
C'était peut-être un paysan qui n'entrait pas dans les subtilités de qui enseignait et qui ne pouvait plus enseigner.
Il avait horreur de tout ça.
Mais il n'avait pas le sens de l'histoire et le sens... Parce que Groot avait... bien que parfaitement athée, il avait des valeurs morales assez fermes, des règles morales avec lesquelles il ne transigeait pas. Il trouvait que l'ambition temporelle était quelque chose de parfaitement ridicule. Il n'en avait aucune et malgré son indulgence, il trouvait non pas que les amis qui avaient une ambition temporelle faisaient quelque chose de mal, mais qu'ils faisaient quelque chose de risible et d'indigne d'eux. C'était plutôt ça. Parce que lui, qui avait été professeur en Allemagne, n'a plus jamais eu de chaire en France et il n'a jamais rien fait pour en obtenir une. Et finalement, ses fonctions, c'était d'impulser les livres parlant d'idées aux éditions de la NRF et aux éditions Gallimard. Il était rétribué exactement pour subsister, pas un sou de plus. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que actuellement, où on parle tant des sciences de l'homme, de l'ethnologie et anthropologie du quotidien, de la critique de la vie quotidienne, du dialogue, de la communication, on parle beaucoup de Gide, on parle encore de Malraux, et on ne parle plus du tout de Bernard Grotthuysen. Ça, c'est un oubli dont je n'arrive pas à déceler les causes.
C'est précisément parce que l'honnête homme n'est autre chose qu'une sublimation du bourgeois honnête et non une figure abstraite relevant d'un catéchisme moral qu'il représente une réalité, l'homme nouveau, que la bourgeoisie des temps modernes pourra opposer à l'ancien que concevait l'Église. Cet homme nouveau a fait ses preuves. C'est sa propre existence qui sera son suprême argument. Il a prouvé ce dont seule la vie peut témoigner, qu'en vivant comme il le fait, on réussit. Il y a les villes et les villages florissants. Il y a le bien-être qui se répand partout où il a pu librement déployer ses forces. Il y a le bonheur, qu'un Dieu jaloux ne semble plus garder pour l'au-delà depuis que ses enfants ont su se conduire en hommes raisonnables et entreprenants. Il y a le monde qu'il a créé et qui témoigne en sa faveur. Ce monde est à lui. Il n'est pas l'œuvre des dévots. Il l'a créé malgré les dévots, qui lui parlait de la vanité des efforts humains devant la mort. Lui, il a cru à la vie et il a réussi.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un maître à penser des années 30, Bernard Grotthuysen, par Jean Montalbetti, médiateur Jean Toussaint de Santy, philosophe, professeur à Paris 1, et Dominique de Santy, historienne et romancière. Témoins, Francis Ponge, écrivain et poète, Yvon Bellaval, philosophe des sciences. Les textes, extraits de Masques et portraits et de L'anthropologie philosophique de Bernard Grotthuysen, ont été dits par Pierre Vernier. Les témoignages de Clara Malraux et de Maria Van Rieselberg ont été lus par Odile Poisson. Prise de son, Jean-Louis Boissonnade. Mixage, Édouard Campras. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 janvier 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne à la page des nuits sur le site franceculture.fr.